RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, avec vous, comme tous les jours, de 9h à midi, bien sûr. Vous prenez la parole au 32-16. Là, durant la deuxième heure des GG, on va parler de la France insoumise qui est classée à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Des élections municipales, est-ce qu'on doit autoriser le vote des étrangers extra-communautaires? D'abord, on va revenir sur le drame de Sanary. On va y revenir avec Zora Habitant, Bruno Poncet, Emmanuel Devilliers. Le drame de Sanary, c'est cette adolescente de 14 ans qui a poignardé sa professeure. Il avait la haine, il avait la rage. Alors, ce qu'on n'arrive pas à savoir précisément, c'est quel était son environnement familial. Il y avait un suivi éducatif, mais on s'est aperçu, à travers les perquisitions des enquêteurs, qu'il avait chez lui une espèce de collection de couteaux parce que, c'est lui qui l'a dit, hein. Il trouvait ça stylé.
Oui, on en a appris plus hier. Bon, déjà, c'est prémédité. Il a prémédité son agression. Il en voulait à cette prof pour des remarques qu'il avait reçues sur l'application Pronote, hein, cette application qui permet de gérer la vie scolaire. Il trouvait ça injuste. Donc, il prend un couteau dans sa cuisine le matin. Il n'a pas pris ses couteaux de collection parce qu'en plus, il a des couteaux de collection. Il trouve ça stylé. C'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Et donc, avec son couteau, il est parti en Opinel. Il est parti en pleine classe et devant une vingtaine d'autres élèves. Il a poignardé à 4 reprises quand même sa prof qui est toujours entre la vie et la mort malgré une opération et qui son pronostic vital est engagé sur plusieurs jours. Elle est hospitalisée bien entendu toujours. Et puis on apprend qu'un signalement avait été effectué en mars par le collège à la suite de suspicions de violence commises par ses parents sur sa jeune sœur. L'enquête avait été classée sans suite, mais un rendez-vous avec les services de protection judiciaire avait été pris et devait avoir lieu le 5 février. Donc ça se passe en mars et on attend le février de l'année suivante pour voir ce jeune et voir s'il n'est pas perturbé par tout ça. Ce qui fait dire à Darmanin, ministre de la Justice, qu'il y a peut-être un petit retard à l'allumage. Il va falloir aller un peu plus vite au ministère de la Justice si on veut protéger les enfants. Et dans toute cette histoire, pas un mot sur les parents.
Ben oui.
On ne sait pas qui ils sont, quel est le profil. Le môme, il a 14 ans, il est donc sous la responsabilité de ses parents. Ses actes, ce sont ses parents qui doivent l'assumer. Et, et c'est quand même le grand oubli.
Bah, d'où ça vient tout ça? Moi qui suis aux avant-postes de l'éducation depuis de nombreuses années et impliqué dans l'éducation populaire auprès des jeunes, ce qui m'a toujours fait hurler, c'est l'État, lorsqu'il met des dispositifs en place, il met souvent des dispositifs pour les jeunes et il a toujours exclu les parents qui font partie de la première chaîne éducative. Ne l'oublions pas que dans la chaîne éducative, les parents sont en première ligne. Ensuite, il y a l'école, le sport, le centre aéré, le soutien scolaire, etc. Mais ce sont les parents. Et quand vous regardez bien dans toutes les politiques publiques qui sont mises en place, le parent, il est toujours le dernier qu'on va chercher. À la fois, non pas pour le sanctionner toujours, mais aussi pour l'accompagner, pour l'aider, etc. Et ce qui fait qu'on découvre aujourd'hui, mais où sont les parents? Mais en fait, c'est les premières personnes concernées. L'État n'a pas à pallier, un enseignant n'a pas à apprendre à un jeune à dire bonjour, à s'asseoir, etc. Oh, sauf qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont confrontés à un manque d'éducation des jeunes, un espèce d'enfant roi qui se croit tout permis. Et ils arrivent plus à gérer. On dit retard à l'allumage, c'est vrai. Mais quand il y a comme ça harcèlement, frustration, enfants violents, moi je me souviendrai toujours quand Sarkozy avait dit en 2012, je crois, il avait dit il faudrait détecter la violence des enfants dès la maternelle. Tout le monde avait hurlé. Mais en fait, c'est du bon sens. Ça veut dire que c'est pas détecter pour stigmatiser, c'est détecter pour accompagner, prévenir et faire en sorte que cet enfant, quand il sera adolescent, ce sera pas un violent. En fait, personne, tout le monde met tout sous le tapis et puis on découvre que des enfants arrivent avec des couteaux. Mais à quel moment la famille a eu un ministère? À quel moment la famille a été une priorité? Les centres médico-psychopédagogiques, c'est un an d'attente, voire plus, ils ont tous été fermés. La santé mentale, n'en parlons pas. La monoparentalité, tout le monde est en freestyle chez lui. Les mères, elles vont travailler à 5h du matin et rentrent à 8h le soir. Le môme, il est dehors, tout le monde s'en fout. Les centres aérés avec l'histoire des rythmes scolaires, eh ben on a dit que à l'adolescence, ben en fait il y a plus de centre aéré. Les mômes rentrent au collège, il y a plus de centre aéré. Terminé, ils sont dans la nature. Eh ben les parents, faut qu'ils aillent travailler. Donc comme la famille n'a jamais été une priorité et qu'elle a jamais été signifiée de cette manière-là comme priorité à la fois pour les familles monoparentales, eh ben aujourd'hui les gens, je dis pas qu'ils sont irresponsables, mais je dis qu'à un moment donné, si on dit pas aux parents, vous êtes responsables de vos enfants et que s'il y a un problème, vous avez le droit de le dire et on va faire ce qu'il faut, et ben en fait, tout le monde, on arrive à ces situations-là.
Quand t'as 14 ans, t'as une collection de couleurs chez toi, c'est stylé.
Mais bien sûr, ils sont responsables.
Non, les parents sont irresponsables de laisser ton gamin faire une collection de couteaux. Je suis désolé.
Mais bien sûr, c'est ce que je dis.
On va mettre le truc en ligne. Quand t'étais gamin, moi, quand j'étais gamin, qu'on trouvait mon lance-pierre, je peux te garantir qu'il était cassé devant moi. Et quand j'avais un opinel dans la poche, je peux te garantir que je prenais une claque et restais à la maison.
Donc,
à un moment
la responsabilité
donné,
des parents est première.
Oui, mais ils sont irresponsables dans leur tête surtout. Parce que laisser ton gamin faire une collection de couteaux à 14 piges. Après, moi, j'aimerais bien que Darmanin fasse autre chose que commentateur judiciaire. Parce qu'en fait, l'enquête est même pas finie. T'as rien. Enfin, aujourd'hui, en train d'attendre que la prof puisse être sauvée, il commence déjà à parler en disant que c'est une faute de son ministère. Ben, je vais te dire, lui, depuis qu'il est au gouvernement, entre la justice et la police, il n'a quand même pas fait des merveilles. Hein. Donc ça serait bien qu'il reste un peu en retrait et puis qu'il laisse les choses se faire. Après, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je peine encore à comprendre comment tu peux laisser un gamin à un moment donné s'obscurcir comme ça pour arriver à avoir une collection de couteaux, pour arriver que le matin, quand ils partent à l'école, alors même si les parents sont déjà partis au boulot, mais qu'ils partent à l'école avec des trucs dans la poche. Moi, je sais pas, mais quand j'étais gamin et que mes parents sentaient que j'allais faire une connerie, je peux te garantir, pendant longtemps, ils me fouillaient mon sac. Hein. Et matin et soir, hein, parce qu'ils savaient que... Bon, déjà, ils trouvaient mes clopes. Déjà, je me faisais tanner.
Est-ce que tu oublies, Bruno, c'est qu'il y a plein de parents déséquilibrés qui vont pas bien, qui sont pas mieux.
Oui, mais alors, moi, j'en ai marre. La responsabilité. On arrête les commentaires, c'est terminé.
Est-ce que j'ai justifié socialement? J'ai dit qu'un gosse qui a un couteau, il a aussi les parents.
On arrête les commentaires. On va arrêter les parents immédiatement. On les interpelle immédiatement, déjà, comme ça, on aura des informations. Et ensuite, pour éviter que des jeunes déviants fassent des choses horribles, parce que c'est latent, il y en a partout, il faut des sanctions gravissimes qui fait que le petit con, il va quand même réfléchir en disant, si je passe 10 ans en prison et que je pourrais plus rien faire, je pourrais plus avoir ma PlayStation ou je sais pas quoi, il va réfléchir. Il faut essayer de faire réfléchir ces tarés.
Je pense qu'il va y aller, là.
On a Guillaume. À mon avis, hein. Guillaume veut réagir des Pyrénées-Atlantiques. Ça bonjour Guillaume.
Comble, bonjour à tous.
Bienvenue.
Bonjour Guillaume.
C'est l'histoire du couteau, vous, qui vous a fait réagir, qu'il avait une collection de couteaux.
Bah, oui, j'ai toujours vu, moi, les anciens en avoir un sur eux, qui servait à tout, sauf à tuer quelqu'un. Et moi, jeune, je me suis intéressé à ça, et j'en avais une collection.
À quel âge?
À partir de, je dirais, 12-13 ans, j'ai commencé la collection.
Ah bon? Et vos parents vous ont laissé faire?
Mais bien sûr. Sauf que, j'avais pas, ça m'est jamais venu à l'idée que ça servait à tuer quelqu'un, premièrement.
Voilà.
Si jamais il sortait de la chambre, j'avais le retour derrière la peur de mes parents. J'ai jamais été un enfant battu, rien. Hein. J'avais juste de l'autorité. Et derrière, ça a été une collection qui était sur une étagère et que on faisait grandir au fil du temps. J'ai 46 ans, j'ai toujours eu un couteau sur moi à partir de l'âge de 14 ans à peu près.
Mais ça sert à quoi d'avoir un couteau sur soi?
C'est comme les vieux, pour un couteau
sur soi. Oui, c'est vrai.
Vous en servez
tous les jours.
Ben,
Vous mangez avec?
Ah ben je vais manger avec. J'ai une entreprise de nettoyage. J'ai des aspirateurs qui tombent en panne. Ça me sert à dénuder des fils.
Ouais,
ça me sert à dénuder.
Oui, c'est un truc utilitaire, c'est pas... Voilà.
Mais si on n'habitait pas Paris, non, moi j'en ai un dans les poches, mais j'habite Paris, dès que tu passes un endroit, tu bipes. Donc en fait, tu veux plus avoir de couteau. Moi, je me suis retrouvé au tribunal à Paris avec le couteau dans la poche, pensant que c'était, tu sais, c'est mon couteau de boulot, j'avais mon sac de boulot. En fait, j'ai grandi comme Guillaume avec un couteau.
Allez-y Guillaume, oui.
J'ai la chance d'être au Pays Basque et de pas avoir le problème de se faire contrôler en permanence.
Oui, mais Guillaume, là, on a affaire à un môme, je dis môme parce qu'il a 14 ans, et pour être notre enfant, qui, visiblement, est un élève perturbateur à l'école, donc il y avait un souci. Visiblement, il y a des problèmes à la maison, avec cette suspicion de violence sur la jeune sœur, bon, ça a été classé sans suite, mais enfin, quand même, la protection judiciaire de la jeunesse voulait le voir. Donc il y a quand même un contexte. Visiblement, il va pas très bien.
Oui.
Ben, quand quelqu'un va pas très bien, on lui laisse pas des couteaux à 14 ans. Enfin, c'est du bon sens. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec Emmanuel. Je comprends pas que tes parents n'aient pas été convoqués tout de suite.
Mais
pas convoqués.
Placé en garde à vue.
Arrêtez. Placé en garde à vue. Arrêtez immédiatement.
Oui, oui. Mais oui, c'est là le problème, c'est qu'on les, on laisse pourrir la situation. On va pas chercher les parents en premier.
Non, mais parce que il y a ce cas d'espèce, mais il y a un caractère, il y a un caractère d'exemplarité. C'est pas le président qui arrive là en rigolant un peu comme Minos en peur sur la ville, là, faire des commentaires là-bas sur place, qui va régler quoi que ce soit.
En plus, c'est
Allez-y, Guillaume.
Sur le coup, il y a un signalement qui est fait. Il y a tout un processus qui n'a pas été suivi par la justice ou par les services sociaux. Mais on ne peut pas incriminer quelqu'un parce qu'il a une collection de couteaux en disant « Attention, ça va être un danger ». Là, on a, ce sont bien des cas précis où la justice et les services sociaux ont été défaillants.
Ah bah.
Ouais, mais enfin, moi, que tu collectionnes
dans cette histoire,
que tu collectionnes les vignettes Panini, tu vas peut-être te couper le doigt avec. Mais enfin, quand tu collectionnes les couteaux et puis que t'as déjà un pet au casque, à un moment donné, tôt ou tard, ça va pas bien se finir. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a des tueries de masse, le mec, il adorait les armes. Il en avait sous son lit. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec, un jour, il les prend. Ma prof, tiens, tu vois, là, l'exemple. Moi, j'entends, Guillaume, ce que tu dis. Mais là, la prof, elle lui met un truc sur Pronote. Le gamin, ça lui plaît pas. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas sa collection de couteaux. T'as raison, il prend le couteau de boucherie de sa mère. Donc, en fait, on est dans un gamin qui était peut-être omnibulé par les armes, mais qui surtout, à quoi ça servait. Toi, tu dis, moi, je savais même pas que ça servait à tuer quand j'avais 12-13 ans. Moi, j'entends. Mais ce gamin-là, 14 ans, il sait très bien à quoi ça servait, que s'il mettait 4 couteaux à sa prof, il allait pas lui faire un trou pour rien.
Concernant les fouilles, il faut arrêter aussi de fantasmer là-dessus. C'est pas réaliste de mettre des fouilles comme pour prendre l'avion. C'est des structures extrêmement lourdes. Ça coûterait un argent fou. Et en plus, ça exciterait les salopards pour trouver une combine parce qu'une école n'est jamais hermétique. Ça servira à rien au final.
T'as pas connu ça. Moi, j'ai 53 ans. J'ai connu, moi, des pions qui regardaient ton sac quand tu rentres à l'école, surtout quand t'as 13-14 ans et que tu commences déjà à faire des conneries. Déjà, moi, je me suis fait gauler mes clubs quasiment.
Le problème d'un couteau, c'est que tu peux le mettre sur toi.
Bah oui, mais en fait, dans tout ça, c'était surtout pour pas amener des gros trucs. Parce que si tu prends un coup de canif, moi, j'avais souvent un opinel sur moi, je vais te faire du mal, mais j'ai pas amusé à te trancher la gorge. Quand on était gamin, ça m'amusait pas à se piquer avec quand même. Mais par contre, le gamin qui t'emmène un truc plus gros, ouais, là, ça commence à être problème. Moi, à mon époque, c'est Nunchaku. Les mecs, ils avaient des nunchakus, ils savaient pas s'en servir. Ou ils avaient des shurikens, des shurikens aussi. Voilà, ça, le point américain, moi j'en avais dans la poche. Mais le shuriken aussi. Non, mais tu sais, quand on était gamin, on se trouvait tous pour
bouffer. Moi, je me souviens, ado, je m'étais acheté un cran d'arrêt.
Ah oui, ça c'est bon.
Je fantasmais sur le cran d'arrêt.
J'en ai encore un chez
moi.
J'ai retrouvé.
Quand ma mère était tombée dessus, je peux te dire qu'elle me l'avait confisqué. Et après, je fouillais partout pour essayer de retrouver mon cran d'arrêt.
Mais nous, on avait des couteaux.
Je l'ai jamais retrouvé.
Mais nous, on avait des lames qui dépassaient pas la moitié de la largeur de notre main, parce que sinon, on savait qu'on se rigolait par les flics.
Oui, mais après, à l'époque, on avait ça. C'était pas pour planter la prof.
Non,
c'était parce qu'on voulait faire le cacou, quoi. Voilà.
Mais Olivier, toi, t'avais le cran d'arrêt payé.
Il y a la question de l'autorité aussi de l'enfant ou du jeune en rapport avec l'autorité. Pour nous, l'enseignant, le maître d'école, le policier, c'était une figure d'autorité.
Oui.
Ça allait de soi.
Même si on pouvait le détester.
Même si on pouvait le détester.
Entre nous, on avait
cette distance. Quand il levait la voix ou quand il disait un truc, on flippait de se prendre une rouste, ou alors d'aller être dénoncé à nos parents.
Une précision sur le propos de Bruno Poncet, notre cher révolutionnaire Henri Bann, c'est que les nunchakus, c'est extrêmement dangereux si on ne sait pas les utiliser. Ça peut mal finir.
Emeric veut en parler avec nous aussi. Emeric de Haute-Savoie. Bonjour Emeric.
Bonjour.
Bonjour Emeric.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Emeric, alors?
Ben moi, ce que l'on dit, c'est que déjà hier matin, il y a quelque chose qui m'a choqué sur votre antenne, c'est qu'il y a une secrétaire. Alors le problème, c'est que du coup, il y en a tellement qu'aujourd'hui, on ne sait plus d'où ils viennent. Mais il y a une secrétaire de l'État qui est venue sur votre antenne tôt le matin et qui expliquait qu'en gros, l'État, par le biais de l'école, par le biais de la justice, devait se remettre en question par rapport à ces problèmes de sécurité à l'école. Mais en fait, le problème, ce qui me choque, c'est qu'en fait, on oublie, comme vous avez dit tout à l'heure, la place des parents. Ouais. Aujourd'hui, les parents, vous voyez, pour rentrer en école maternelle, par exemple, il fallait que l'enfant soit propre, soit social, soit voilà. Aujourd'hui, maintenant, on a des AESH, on a des maîtresses d'école maternelle qui changent des couches. Parce que même pour rentrer en école, il n'y a plus la notion déjà d'être propre. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on retire les problèmes des parents pour les transférer à l'État.
L'éducation, oui, on a transféré.
Du coup, voilà. L'école, c'est l'instruction. L'école, on vous apprend à lire, on vous apprend à compter, on vous instruit. L'éducation, c'est les valeurs. C'est le bonjour, c'est le savoir-vivre en communauté. Quand les parents, aujourd'hui, font des enfants, les abandonnent, les laissent grandir sauvagement, dans cet état-là, eh ben le problème, c'est que ça donne ça. Ça donne des enfants qui sont perturbés, ça donne des enfants qui n'ont pas de cadre, ça donne des enfants qui aujourd'hui deviennent violents et qui aussi peuvent se faire engrainer dans de la délinquance parce qu'ils n'ont pas de cadre, parce qu'ils n'ont pas de référence autoritaire de la part des parents. Ça ne veut pas dire être méchant, ça veut dire savoir dire non, ça veut dire savoir créer de la frustration chez l'enfant. Quand on ne crée pas tout ça, ça donne ça. Oui, aujourd'hui, mais, on apprend qu'il a un problème psychiatrique. On nous dit que potentiellement, il a un problème psychiatrique, cet enfant. Et c'est grave. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a suivi ça. Et surtout, c'est qu'un enfant ne devient pas avec ces problèmes-là, comme ça, du jour au lendemain.
Non.
C'est vrai.
Voilà. Ça veut dire que si les parents auraient été là, il y a une responsabilité de ces gens-là. Mmh. Ils l'ont fait, cet enfant. Il n'est pas apparu comme ça tout seul. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, on doit tirer une responsabilité. C'est pas l'État qui doit se remettre en question et dire voilà, l'État ne doit pas soigner tous les maux du monde. Il faut pas oublier que l'école, on vous instruit. L'éducation, les valeurs, c'est les parents qui les donnent.
Mais Aymeric, ce que vous dites, c'est vrai, c'est factuel, c'est vrai. L'ordre, l'autorité, la rigueur, l'éducation, c'est des valeurs universelles. Elles sont ni de droite ni de gauche. C'est quelque chose qu'on doit exiger. Mais le problème, c'est que lorsque les parents démissionnent sur ce rôle d'éducation qui a pour vocation de faire des enfants qui, dans le collectif, se comportent correctement, eh ben en fait, ils mettent en danger toute l'école et toute la République, tout ce pourquoi les enfants et en fait, il est là le problème. C'est-à-dire que quand on est, moi j'ai ma petite fille qui est en collège, elle est en train de vivre un harcèlement. Croyez-moi que on doit être derrière, parce que le renversement de la charge, c'est de dire
je peux te poser une question. Ta petite fille harcelée. Oui. Est-ce que les parents ont été voir les parents du harceleur pour régler le truc?
Non, pas encore. Non,
bien sûr. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Je suis désolé.
Mais oui.
Les parents.
Moi, j'ai des audios. Des jeunes filles qui harcèlent ma petite fille. Faut voir les gros mots. Faut voir ce qu'elles disent.
Quel âge?
11 ans, 12 ans, collège. Et ce qui m'a inquiété, c'est que l'école a dit à ma petite fille, voilà, qu'en gros, elle était responsable. Et donc j'ai dit ça va prendre une tournure encore de dingue.
La gamine à qui on a dit ça, c'était sous un
voilà plan, voilà et donc ouais, moi mon fils m'a appelé en urgence et m'a dit mais maman c'est pas possible, donc on est en train de gérer ça alors que en fait tout part d'une histoire banale. Oui, ils se bousculent, voilà, terminé. Et là il y a une armée de gamines qui se liguent et qui se met sur le dos de ma petite fille, et j'écoute les audios avec des gros mots incroyables. Je me dis, mais c'est l'école. Ouais,
justement, on pourra en reparler tout à l'heure quand on évoquera ce qui s'est passé à Saint-Genis-Laval dans la banlieue lyonnaise. Ah bah. C'est terrible, hein. Ah bah. Cette gamine, adolescentes.
J'ai pas pu regarder la vidéo tellement c'était violent, quoi.
C'est une jeune fille qui est tombée dans un guet-apens de deux jeunes filles qui elles-mêmes sont déjà connues de l'école et même de la gendarmerie pour des faits de violence. La jeune fille s'est fait rouer de coups, coups de pied dans la tête.
Mais on tombe toujours sur le problème des sanctions.
Elle a dû être
hospitalisée. Des sanctions draconiennes.
Mais on en parlera tout à l'heure
quand
à 11h20.
Quand on tape la tête, c'est qu'on veut tuer, hein.
Là, je remercie Guillaume et Aymeric d'avoir été avec nous du côté des Pyrénées-Atlantiques et de la Haute-Savoie. Merci Guillaume, merci Aymeric d'avoir été dans la discussion. Bonne journée, messieurs. Bonne journée. Merci d'avoir été avec les grandes gueules. Dans un instant, le droit de vote aux étrangers, aux élections municipales, mais les étrangers extra-européens. Est-ce qu'on dit oui ou non? C'est au 32-16 que ça se passe, il est 10h.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules. Vous accueille au 32-16, bien évidemment, pour discuter, pour débattre avec Zora Bitton, avec Bruno Poncet, avec Emmanuel Debilly. On va avoir une petite discussion politique là pendant une dizaine de minutes avec vous. En fait, c'est la commission des lois à l'Assemblée nationale qui a adopté en deuxième lecture une proposition de loi constitutionnelle pour accorder le droit de vote aux élections municipales aux étrangers. Mais aux étrangers non pas de l'Union européenne, aux étrangers extra-européens.
C'est une vieille revendication de la gauche. Cette revendication était dans le programme de François Mitterrand en 1981. Certains diront, mauvaise langue, c'est une arlésienne. Mais c'est vrai que, par exemple, aux européennes, désormais, les étrangers, enfin les Européens originaires de l'Union européenne peuvent voter aux européennes. Et c'est d'ailleurs l'argument que prend l'écologiste qui défend cette loi. Les Espagnols et les Polonais peuvent voter, après quelques semaines de résidence en France, aux européennes, tandis qu'un Marocain, qui est là depuis des décennies, légalement sur le territoire, ne peut pas voter pour son maire. Ce n'est pas normal. Donc, la gauche voudrait que les étrangers qui vivent... Alors, il faudrait définir d'ailleurs peut-être une durée de séjour, etc. Ça, c'est faut affiner la proposition, mais que les étrangers qui vivent chez nous peuvent voter pour leur maire. La droite s'y oppose en expliquant que c'est un principe constitutionnel. Le droit de vote doit être associé à la nationalité.
D'accord. Alors, avec ça, Emmanuel ?
Le débat n'est pas très compliqué. Où on est français, où on l'est pas,
On a le droit de vote si on est français, pour voter en France. Il y a derrière évidemment une visée électorale. C'est pas par générosité ou par volonté de rétablir une justice.
Ah bon, c'est un réservoir de voix.
Bien
pour
entendu.
La gauche.
Pourquoi
les étrangers voteraient forcément à gauche?
Ben ça, c'est un autre débat.
Ah, mais
toujours est-il que
c'est
évidemment dans une visée électoraliste, et ça n'est pas du tout normal qu'on en soit à ce type de réflexion.
Non, mais... Pour connaître cette vieille rengaine qui nous est servie depuis Mitterrand et auquel j'ai assisté, c'est-à-dire qu'ils sont silencieux pendant 5 ans et ils te sortent la cartouche. Ça faisait longtemps qu'on ne nous l'avait pas faite, celle-là, le droit de vote des étrangers aux élections. Comme si le droit de vote des étrangers aux élections était le problème numéro 1. Déjà, ils font du communautarisme tout seuls. Il n'y a même pas besoin de cette loi-là. On voit aujourd'hui comment un certain nombre de partis politiques draguent, parfois même à droite, localement pour les municipales, de toute façon. Tout le monde aujourd'hui fait fi de la République, de l'universalisme, etc. Tout le monde parle en communauté.
Mais un étranger qui travaille depuis des années en France, qui paye des impôts dans sa commune, qui paye une taxe foncière, par exemple.
Tu veux mon avis? Je suis opposé. Point. Voilà. Je suis opposé.
Sans faire des grands principes, est-ce qu'il pourrait ne pas voter?
Le droit de vote, c'est citoyen français. Point barre. Le droit de vote aux européennes, c'est citoyen européen. Point barre. Je vois pas pourquoi on fabriquerait des règles différentes. Il y a ça, déjà ça c'est mon avis, et deuxièmement, la gauche nous fait toujours le couplet du « vous pouvez ressortir tous », vous allez sur Google, vous allez voir toutes les fois où la gauche a sorti ça, de toute façon c'est pas voté, c'est pas encore fait, c'est juste qu'une proposition qui est débattue, on n'y est pas encore. Mais
il faudra
voilà.
un référendum pour changer
oui,
la Constitution.
Oui, voilà, donc voilà, en plus ils vont changer la Constitution.
En plus un étranger, en règle générale, il a souvent le droit de vote dans son propre pays.
C'est
fromage ou dessert.
Voilà, c'est ça.
Bruno. Oui, et c'est vrai que rien n'empêche le Marocain qui est là depuis 30 ans de demander la nationalité française pour pouvoir
Exactement.
Voter.
Exactement. Et pareil pour les autres, ils peuvent voter dans les consulats et ils votent pour leur pays d'origine.
Que dit le petit livre rouge de Poncet dans le poncisme.
Qui lui-même ne vote pas.
Voilà. Moi, ce que je vois surtout, c'est que là, on est en train d'expliquer qu'un gamin de 18 ans. Qui est tué, appuyé sur le nez, il y a encore de la morphe qui sort, il a le droit de voter. Par contre, un mec, ça fait 40 piges qui travaille en France, qui a des papiers, il a pas le droit de voter. Donc, en fait, et encore localement ou autre. Moi, je trouve que c'est injuste. C'est injuste d'empêcher quelqu'un qui travaille là, qui a envie de voter pour son maire, parce qu'il participe à la vie de la commune depuis des années. Peut-être même qu'il investit dans des associations ou dans le sportif et tout, et le mec, il a pas le droit de voter alors qu'il fait vivre la commune. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis surtout, alors là, Zoral l'a bien dit, mais c'est qu'on sort ça à chaque fois qu'il y a une élection. Par contre, quand ils sont au pouvoir, ils ont jamais mis la loi. Et puis surtout, ils n'ont jamais changé la Constitution, parce que c'est.
Oui,
c'est
mais
vrai
parce que c'est compliqué, parce que le Sénat est en général toujours à droite, sauf qu'il a été à gauche à un moment donné.
Oui,
et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que ça aurait pu le faire.
Exactement.
Parce que le Sénat était à un moment donné à gauche sous François Hollande.
Voilà, ils ne l'ont pas fait, c'est quand même bizarre. Ouais. Alors là, je trouve ça assez extraordinaire. Moi, j'aime cette gauche qui sort tout le temps dans les élections, tu vois, c'est comme les Gage et compagnie qui te racontent qu'aujourd'hui, ils sont de gauche.
Oui,
mais enfin, qu'un jour, dans leur programme.
Ton argument est recevable, Bruno. Mais le vote est égalitaire. Chaque voix est égale n'importe quelle autre voix.
Okay,
or, là, il y aurait un problème.
Mais c'est quoi le problème? Le mec qui travaille, il cotise depuis 40 ans.
Parce que si on n'est pas français, j'aurai à la rappeler. C'est une différence notoire, c'est comme ça. L'égalitarisme est une folie, on ne peut pas tout mettre en égalité.
Mais moi je suis désolé, le mec qui vit dans la commune, qui fait vivre dans la commune, pourquoi il n'aurait pas le droit de voter?
Un autre argument qui est développé par ceux qui s'opposent à cette idée venue de la gauche, c'est qu'il pourrait y avoir des ingérences étrangères. Parce qu'il y a des communautés qui sont quand même très bien organisées, et ces communautés pourraient être téléguidées par l'étranger pour faire passer telle ou telle personnalité politique.
Bien sûr.
Alors, on ne citera pas des pays, mais il y a des pays, on peut citer par exemple Turquie, est-ce que on sait qu'il y a beaucoup de Turcs qui sont très pro Erdogan chez nous. Hein, on les a vus dans les élections puisqu'ils votent aux élections chez nous. Il y a des bureaux de vote. Bon, est-ce que il y aurait pas une tentation du pouvoir turc de dire je vais pouvoir influencer via ces votes la politique française?
Ouais, Olivier, c'est vrai qu'il y a pas de partis politiques qui sont financés par des pays étrangers. Donc l'ingérence d'un tas de partis politiques. On peut en parler et en plus même des partis qui ont été au pouvoir, des présidents de la République, on sait qu'on a eu touché de l'argent de pays étrangers où là l'ingérence était quand même violente, parce qu'il y avait de l'ingérence aussi terroriste. Et oui, effectivement, c'est vrai que c'est plus compliqué de délire un Marocain. Ça fait 40 ans que tu travailles là, ça fait 40 ans que tu fais vivre la commune, t'as pas le droit de voter. Par contre, le mec là-bas, le français, il va voter, mais lui, par contre, il touche des ronds, de la Syrie, de la Libye ou de la Russie. Ouais, effectivement.
Oui, mais par exemple.
On est bien, c'est clair.
Oui, mais le problème, c'est qu'au Maroc, un Français qui vit depuis 30 ans au Maroc, il peut pas voter au Maroc.
Mais voilà, exactement. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que nous, en France, on va tous nous aider. Et qu'en fait, aucun peut-être pays ne cède rien. À la fois sur le patriotisme, son identité, le fait qu'il y tient, etc. Nous, on doit toujours tous aider. C'est-à-dire qu'on est les seuls au monde à dire, quand t'es étranger, en fait, tu peux voter à des élections.
Il y a qu'une solution, Bruno, que je vois, qui est minimaliste, mais j'essaye d'aller dans ton sens. Si t'es un camarade étranger qui peut pas voter mais qui veut voter, comme toi tu votes pas, tu lui demandes, tu fais une procuration et tu fais son vote.
Non.
T'as déjà une voix.
Dans ce cas-là, je lui demande pour qui il voterait, je vote pour lui.
Jason, bonjour Jason.
Tu me dis qu'il vote pour Le Pen, je vote quand même.
Bienvenue, vous êtes chef de cuisine du côté du Finistère à Fouesnant, je crois, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Alors, est-ce que vous êtes, vu votre accent britannique, vous êtes, dites-moi.
Oui, d'origine anglaise, j'ai arrivé en France en 94.
D'accord.
Et donc ensuite, en 97, je me suis marié avec mon épouse que j'ai rencontrée en Angleterre. Et donc, on est venu ici pour reprendre une affaire familiale, un hôtel-restaurant, qui est dans la famille depuis 4 générations. Et donc, ça faisait pratiquement 30 ans que j'ai travaillé là. Et dès le lendemain du Brexit, j'ai reçu un courrier de la mairie pour me dire que j'avais plus le droit de voter pour les municipales. Effectivement, j'avais pas le droit de voter pour les présidentielles parce que je suis britannique, toujours. Mais là, je suis en train de faire mes démarches pour me naturaliser. Donc, normalement, cette année, je vais me naturaliser. Mais moi, pour les votes municipales, je trouve que depuis tant que je vis là, je participe activement dans la vie commune, que j'aurais droit à voter pour les municipales.
Mais vous trouvez, Jason, vous trouvez normal qu'on lit ça à la nationalité, c'est-à-dire que vous devenez français et là vous pourrez voter?
Pour les présidentielles, oui. Je pense que il faudra faire au moins un minimum de démarches pour naturaliser. Mais pour le municipal, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années de vie commune, dans lequel on participe activement, je trouve que il y a quelque chose à faire.
Oui, mais dans ce cas-là, vous prenez la nationalité française.
Ben oui.
Mais c'est ce que je vais faire.
Ah voilà, donc ça règle le problème.
C'est simple.
Oui, non, mais tout à fait. Mais je trouve que pour les municipales, c'est pas pareil qu'à la présidentielle. Donc là, on vit tous les jours dans notre commune.
Oui, je comprends.
Mais pourtant, c'est un principe. Pourtant, Jason, c'est un principe qui est appliqué partout dans le monde. Quand on n'a pas la nationalité du pays, on ne vote pas.
Oui.
Et je vois pas pourquoi en France on dérogerait à ça. Il y a rien. En plus, c'est logique. C'est pas contre les gens.
En France, t'as pas le droit de voter au municipal. À vos yeux, t'as pas le droit de voter municipal. Si t'es pas français, mais t'es dans la ville. Par contre, au municipal, t'as le droit de te présenter dans des villes où tu habites pas. C'est quand même extraordinaire. Et ça, on en a des cas, on en a plein. Ça, c'est extraordinaire. En France, tu peux te présenter dans des villes où tu n'habites pas. Et moi, je peux te sortir des cas, mais tout le temps.
Mais moi aussi, ça m'a toujours choqué.
Voilà.
Ou alors, tu prends un logement, mais c'est un truc que logement.
Barnier, il est député à Paris, il n'habite pas à Paris.
C'est de la tambouille politique.
Il habite à Paris.
Ouais, maintenant.
Si.
Ouais, mais au départ, il était quand même logé en Savoie.
Je peux confirmer personnellement qu'il habite à Paris.
Oui.
Mais il y en a d'autres.
Mais c'est de la tambouille politique, c'est pas de la règle.
Mais pardon, François Hollande, pendant des années, a été député de Corrèze. Il n'avait pas de logement. Il vivait à l'hôtel. Alors désormais, il s'est acheté une maison en Corrèze. François Mitterrand, on peut citer, il y en a 50
000. Oui, même des maires.
Nathalie Kosciusko-Morizet vivait pas à Longjumeau, elle était maire de Longjumeau.
Voilà, Jason, c'est quoi votre spécialité dans votre restaurant, s'il vous plaît?
Pas au Havre.
On travaille tout ce qui est crustacé, forcément, parce qu'on est en Bretagne. Donc, tout ce qui est homard, langoustine, bif.
Tiens, parce que je sens une petite envie là du côté d'Emmanuel Devilliers. Quel est le nom de votre hôtel-restaurant alors, Jason?
C'est Hôtel de la Pointe à Musterlin. Donc le Musterlin, ça fait partie de la commune de Fouesnant, justement.
Ah oui, merci. Félicitations.
C'est de la cuisine anglaise ou bretonne?
Écoutez, je
bretonne, grand breton.
J'ajoute toujours un petit tuche de temps en temps.
C'est quoi la tuche, la tuche, Jason?
Nous, on a les tuches en France.
Le Yorkshire pudding, c'est un peu comme un far salé.
Je vous envoie l'hygiène, je vais vous faire fermer.
Vous faites pas une tourte au rognon, quand même?
Si vous saviez le nombre de fois qu'on me dit ça.
Ça donne envie de venir vous voir, en tout cas.
Oui, absolument.
Merci Jason d'avoir été avec nous. Bonne journée. Sympa, à bientôt.
C'était un plaisir. Merci.
Merci Jason.
Et c'est vrai que là, je trouve que je suis un peu partagé parce que tu vois, il y a Jason, il est très impliqué dans sa commune.
Oui.
Mais il est sympathique. Mais il est restaurateur.
Mais il vient français.
Oui, mais on ne peut pas.
Oui, mais
faire toi, la politique d'un pays sur des cas individuels.
Oui. Non, mais tu te dis que ce type-là, Jason, hein. Je suis sûr qu'il serait utile pour
et
sa commune.
Et quand il était européen sûr, avec l'Angleterre, il avait le droit de voter au municipal.
Oui, oui.
Donc à un moment donné, toi tu me parles de la nationalité, excuse-moi, hein. L'européen c'est pas ta nationalité, et surtout toi l'Europe tu détestes. Donc à un moment donné, il faut être carré en fait. C'est pas géométrie variable.
Alors, on va voir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit autoriser le vote des étrangers aux élections, des étrangers extra-européens, oui ou non, aux élections? Non, 93,5%.
Voilà. Ah, ça arrive pas.
Peut-être si on est passé Jason en premier, de parler des Marocains, ça a peut-être un peu monté. Mais bon,
je dis ça comme ça. Hein.
Ils ont. C'est un rejet massif.
Quel mauvais esprit, ce cher Bruno Poncet. Ouais,
à suivre. La France Insoumise, désormais classée parti d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Ça fait hurler les Insoumis. Ils disent on est un parti de gauche, on n'est pas un parti d'extrême gauche.
Ils sont même un peu à droite, je crois.
À tout de suite, au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
L'IGG, les grandes gueules. Emmanuel Devilliers. Nous sommes avec Zorabitant. Nous sommes avec Bruno Poncet. Si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts. Et dans les podcasts, vous avez non seulement l'émission, mais toutes les petites histoires qui sont racontées GG pendant la pub aussi. Et alors là, comme nous avions Jason avec nous, on a parlé de nos souvenirs de cuisine anglaise, parce qu'on est à peu près tous allés outre-Manche faire des colos ou des stages là-bas. Et alors, les souvenirs, désolé Jason, mais les souvenirs de la bouffe anglaise, la cuisine anglaise, ouais. Ils sont pas terribles. Enfin bon, les souvenirs des GG, vous les retrouvez en podcast. Parlons de la France Insoumise maintenant. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de la France Insoumise? Parce que le ministère de l'Intérieur a classé la France Insoumise comme parti d'extrême gauche.
Oui, c'est la première fois, puisque avant, la France Insoumise était qualifiée de parti de mouvement de gauche. C'est le ministre de l'Intérieur, donc Laurent Nunez, qui innove et ça agace particulièrement Jean-Luc Mélenchon. Voilà ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon dans un tweet. Nunez innove et trouble l'ordre public électoral en changeant les étiquettes sur les partis politiques. Alors qu'en 2020 et 2023, LFI était classé à gauche, le ministre décide à la Trump de nous classer extrême gauche comme nuance dans ses décomptes. On sait aussi que le Rassemblement National n'admet pas être classé extrême droite, car ces deux partis disent un peu la même chose. Ils disent que ce sont des partis républicains qui jouent le jeu électoral. Ce ne sont pas des partis anti-parlementaires. Et donc, il n'y a pas de raison de les classer extrêmes. Et c'est vrai que quand on regarde la définition, par exemple, de l'extrême gauche se définit surtout par son aspect révolutionnaire. Donc l'extrême gauche, c'est plus Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Olivier Besancenot que Jean-Luc Mélenchon. Pareil pour l'extrême droite. L'extrême droite, c'est le néo-nazisme, c'est le néo-fascisme, c'est le suprémacisme. Aujourd'hui, le RN actuel n'est plus ça. Donc, est-ce qu'en fait, derrière, c'est pas politique? C'est-à-dire que c'est une façon aussi d'exclure ses adversaires. Quand tu dis que les adversaires sont les extrêmes, forcément, ça les disqualifie par définition.
Alors, est-ce que la France Insoumise est d'extrême gauche? Oui ou non? 32-16 pour le dire au GG.
Bah oui, oui, clairement. C'est un parti qui est plutôt révolutionnaire. Quand on voit le patchwork des députés à l'Assemblée nationale, c'est quand même très très haut en couleur. Et quand on zoome individuellement, ce sont des gens qui ont des positions extrémistes. On peut citer par exemple Monsieur Léaumont.
Oui,
il glorifie les horreurs de la Révolution française. Je ne sais pas s'il a vu ce que c'était que du sang qui coule dans un caniveau par flot entier. Peut-être aurait-il peur de tenir ses propos.
Tu les as vus
Monsieur Mélenchon et sa compagne, Madame Chikirou, qui glorifie la Révolution bolivarienne, qui a été un ensemble de crimes en Amérique du Sud, qui regrette Monsieur Maduro, qui est un dictateur, et on va dire que c'est pas des extrémistes.
Oui, mais Jean-Luc Mélenchon ne prône pas la Révolution.
Si,
Jean-Luc Mélenchon se présente à la présidentielle.
Il prône la Révolution, sourdement. Ah bon. Tous ces gens-là prônent la Révolution. Ce sont des extrémistes, ce sont des révolutionnaires en puissance.
Alors, pour moi, la définition de alors, pour moi, qualifier Mélenchon d'extrême gauche, elle se situe au niveau, à partir du moment où on quitte la République et l'universalisme, à partir du moment où on est obsédé par le communautarisme, la race, l'origine, et que l'on sort de ce champ-là, forcément, on passe aux extrêmes. Pourquoi ? Parce que la République est une et indivisible et qu'elle a pour but de faire ensemble, de faire en sorte que nous soyons des citoyens et non pas des communautés. Or, la France insoumise défend un projet de communautés qui s'affrontent les unes contre les autres. Et ça, ça sort du champ républicain. Et quand on sort du champ républicain, on devient un extrémiste. Forcément, puisque on ne reconnaît plus les individus en tant que citoyens, on les reconnaît en tant qu'origine. Et ces dernières semaines, ça s'est accéléré puisque la France insoumise ne se cache même plus au travers de ses députés avec cette obsession de la race, de l'origine, de la couleur, etc. Et donc, quand on sort de ce champ-là, eh ben c'est fini. On est d'extrême.
Voilà, c'est un autre éclairage sur le caractère extrémiste de la France insoumise. Alors, que vient de donner Zora.
Bruno Poncet.
Ben moi, je vais juste dire un truc. Je vais répondre aux camarades de Villiers. Tu es d'extrême droite car tu es royaliste. Et à partir du moment que t'es royaliste,
absolument
tu sors.
Pas, mais
bah si, tu viens nous dire que les horreurs de la révolution.
Ah non. Reste un révolutionnaire en Ray-Ban police, s'il te plaît.
Mais toi, au lieu d'avec tes discours, à un moment il faut que tu sois carré. Alors toi, t'as vu des mares de sang. Tu sais pas à quoi ça ressemble une mare de sang. Je t'en ferai voir si tu veux. J'ai des photos.
Oui, non, mais
pas de problème. Mais moi, je vais juste te dire, toi, t'es d'extrême droite. Donc toi, t'es d'extrême droite. T'es royaliste. Donc tu es d'extrême droite. C'est ça l'extrême droite. Moi, le père de ma mère était d'extrême droite. Il était au Croix de Feu. Il était chez Charles Maurras, Action française. Excuse-moi, il était d'extrême droite. Et ils étaient pour le retour du roi.
Comme toi, en train de.
Mais si, c'est le sujet, parce que une fois que t'as dit un truc, après, faut être en face. Moi, je te dis, les filles, si eux, ils sont d'extrême gauche. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est Poutou? Qu'est-ce qui est Nathalie Arthaud? L'extrême gauche, contrairement à ce que tu peux raconter, elle a été théorisée. Elle a été théorisée par des écrivains, par des philosophes. Je veux dire, quand Proudhon parle, Proudhon est un anarchiste, mais ça, c'est l'extrême gauche. Et aujourd'hui, à partir du moment que LFI veut être élu président de la République, que LFI veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale.
Comme Marine Le Pen.
Comme Marine Le Pen, ce
et
sont des gens qui sont.
Un pays dans le monde avec les idées de la France insoumise où ça a marché. Ça a été un drame partout dans le monde.
Ça, c'est autre chose.
C'est vrai qu'avec les idées d'Hitler, ça a bien marché ailleurs.
Mais
c'est ça, mon gars.
Tu fils de résistance, sois sérieux.
Mais moi je suis pas en train de lui dire que t'étais nazi, je suis en train de t'expliquer que tu parles d'extrême gauche, je suis à l'extrême droite.
Le parti nazi, c'était un parti national-socialiste de gauche, précisément.
Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le débat politique, je trouve qu'on traite trop facilement son adversaire d'extrémiste. C'est-à-dire que c'est un peu le cas de la gauche. La gauche le fait beaucoup en disant ah bah oui t'es facho. Alors bon d'accord. Donc ça tue le débat en fait. Quand tu traites l'autre de facho, c'est fini. Et de l'autre côté, effectivement, si tu traites l'autre d'extrémiste de gauche ou de communiste ou de stalinien, ça tue le débat.
Mais
en fait.
Olivier...
Et je trouve qu'on est je trouve que c'est un peu le problème du macronisme. C'est-à-dire que le macronisme, comme le macronisme était au milieu, bien sûr ses bords, c'est forcément les extrémistes.
Mais vous avez oublié.
Donc à un moment donné, tu arrives dans un truc où si tu ne penses pas comme le macronisme,
Olivier,
t'es forcément
un
facho.
Olivier, t'as le droit
à gauche du Macron ou à droite.
Olivier, restons factuels. La France insoumise défend les dictatures bolivariennes d'Amérique du Sud.
Tu défends Trump qui tire dans sa population parce que le mec il est étranger.
Trump est élu démocratique.
On dit que Poutine était fait de l'ingérence dans les élections en 2020 et là en 2024. Qu'est-ce que tu as? En fait, tu vois, ton prisme est dingue. En fait, moi, je vais te dire un truc. À partir du moment où tu peux te dire que la France a soumis d'extrême gauche, mais excuse-moi, c'est quoi la gauche? Les socialistes qui ont voté un budget écrit par le DLR? Mais moi, c'est pas ça, la gauche. Mais... La gauche, c'est pas Hollande qui fait la.
Concentre-toi sur un seul argument et développe-le.
Mais toi, t'as pas d'argument, t'es royaliste, tu parles d'une mare de sang. Mais qu'est-ce que tu peux raconter? Les crimes de la Révolution française. Mais mon gars, retourne dans ton patelin, la Vendée, et puis remonte un peu une révolution.
Attends, je voudrais qu'on aille au 32-16 écouter. On va au 32-16 écouter Loïc. Tu vas pas oublier, regarde, t'as un stylo, note. Loïc du Val-de-Marne. Vas-y, note. Bonjour Loïc.
Eh bien, bonjour les grandes gueules. Ravi de vous entendre à nouveau. Mais alors, baissez le son, ça hurle.
Ah oui, merci.
Alors Loïc,
arrête de crier.
Est-ce que la France Insoumise est extrême gauche ou pas?
Alors, je vais parler en mon nom, mais je vais parler, vous savez, la politique, on en parle tous, à table, au moment des affaires, avec des collègues, avec des amis, avec sa femme, parfois avec ses enfants quand ils sont en âge de comprendre, avec, bien sûr, tout ce qui est lié à tous nos entourages. Moi, je travaille dans 5 régions en France, donc j'ai des collègues un peu partout, on a une trentaine de cabinets d'expertise comptable un peu partout disséminés dans la France. Écoutez, c'est très clair, on s'est tous posé la question, en se marrant, des fois, un verre devant la table, entre LFI et RN. Il n'y a personne qui votera LFI. En tout cas, de mon entourage, autour des centaines de collaborateurs qu'on peut avoir, au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, tout le monde commence à se dire, mais C'est incroyable, le RN a réussi à devenir moins dangereux dans l'image des gens. Ils ont repris le flambeau du FN et les filles par des petites phrases comme il y a une gauche trop blanche à l'humanité. Non, mais vous imaginez un mec du RN se pointer au Sénégal, dire ça au niveau entouré de noirs. Non mais là, ici, on est dans un événement où il y a trop de noirs. Non, mais c'est lunaire. À la sortie, à la fête
c'est de Daniel Obono qui a dit ça, qui était mal à l'aise à la fête de l'humanité parce qu'il y avait trop de blancs, que c'était une fête blanche.
Exactement.
C'est vrai que si vous imaginez si un autre responsable politique disait ça, ouais.
Allez-y, non,
c'est un truc de dingue. Et si on
donc pour vous, c'est d'extrême gauche. Les filles alors, d'extrême gauche.
Non seulement c'est d'extrême gauche, mais une partie des les filles, je ne cible pas tous les élus de les filles, mais il y a même une partie qui est très radicale.
Voilà.
Ils sont là à parler d'identité, notamment d'identité étrangère, qu'il faut accepter, bien évidemment, s'ils veulent s'intégrer, s'ils veulent travailler, pas de souci. Mais alors, pour parler d'identité des autres, il n'y a pas de souci, mais eux déclarent qu'il n'y a pas d'identité française. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que je veux dire par là? Et notamment, ça s'entend dans votre plateau. C'est qu'en fait, on passe son temps en fait, à avoir des élus en face de nous, dont certains sont devenus totalement radicaux. Ils n'écoutent plus, il n'y a plus de tolérance.
Oui, mais donc...
Écoutez les Français, nous, on ne veut pas d'opposition. Moi, je ne veux pas m'opposer à des Français d'origine étrangère, mais qui sont bienvenus chez nous s'ils travaillent, s'ils mettent le pacte républicain avant leur coutume, avant la culture et avant la religion. Donc
merci.
C'est ça, on ne s'oppose pas avec les Français d'étrangers.
Mais
qu'on nous arrête de nous dire...
Mais Loïc,
on arrête de dire aux Français d'origine française, c'est un ancien colonialiste, un ancien collabo, et alors il y a le cochon, mais attends, c'est lunaire, mais nous, on a le droit d'exister aussi, on a le droit de revendiquer que nos grands-pères étaient à Verdun. Merde,
oui.
On a le droit d'exister.
Mais Loïc, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, on essaye de comprendre pourquoi on classerait la France insoumise à l'extrême gauche. Parce que finalement, on a un socle commun, qui est le pacte républicain, qui fait que nous sommes tous des citoyens. Et LFI s'est démarqué en opposant, c'est-à-dire que parti d'un antiracisme des années 80 avec SES qui a échoué, ils revendiquent que la minorité serait supérieure à la majorité qui est dans ce pays. Et du coup, il y a une espèce de d'opposition jusqu'à carrément, on peut qualifier ça de racisme, de gens qui ne seraient pas des minorités opprimées et qui seraient leur clientèle à eux. Or, on rentre dans le champ de la République quand on est universaliste et qu'on parle à tout le monde et qu'on considère pas entre guillemets les uns supérieurs aux autres. Et c'est ça le problème, c'est que LFI est sorti de ce cadre. Là, pensant lutter contre le racisme,
ils en fabriquent un autre. Oui, mais moi, je trouve que derrière, vous voyez pas, vous êtes naïf, il y a quand même une arrière-pensée politique.
Bien sûr.
C'est une façon, et là,
c'est une façon
de diaboliser. C'est-à-dire que quand tu dis extrême, tu diabolises. Tu dis diabolise le RN, tu diabolises les filles. Comme par hasard, ce sont tes deux opposants. Moi, ça me choque.
C'est
je suis désolé.
Mais
comme par hasard, je termine. Comme par hasard, ce sont tes deux opposants à l'Assemblée nationale. Comme par hasard, ce sont ces deux partis qui votent des motions de censure. Et tu les sanctionnes parce que forcément en disant extrême gauche, je comprends Mélenchon.
Mais nous on donne pas un avis politique sur leurs idées.
Vous faites un peu avoir par leur
Non, les
idées
sont
de
réelles.
La France insoumise sont extrémistes.
Mais oui,
Olivier,
leurs idées,
elles sont radicales.
Tu fais une politique de l'autruche.
Non, je ne fais pas une politique de l'autruche. Je dis que c'est la gauche radicale comme le RN, c'est la droite radicale.
C'est la gauche qu'on aime, c'est-à-dire que c'est la gauche qu'on aime. Elle fracture la société tous les jours, mais c'est bien.
C'est plus la gauche, c'est autre chose. Zora, toi, tu détestes les insoumis, c'est ton problème, mais ça n'a rien à voir avec
mais
le débat.
Mais c'est leurs idées que je déteste.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec le débat. Justement, t'es en train de les diaboliser, tu fais comme Nunez. C'est-à-dire, je les aime pas, donc je vais les diaboliser, je les appelle extrêmes.
Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin, on est dans un pays où on a la chance d'avoir une république qui permet à chacun de vivre comme il est.
C'est-à-dire étranger ou pas.
Eux, ils fracturent ce pacte. On peut pas les aimer, bien sûr qu'ils le fracturent. Bien sûr.
Tu émets un avis politique. Donc, en fait, parce que tu les aimes pas, tu veux qu'on
ait un avis d'extrême.
Mais en fait, il n'y a plus de gauche. Donc, en fait, tu peux dire que la France Insoumise, c'est extrême gauche. En fait, il n'y a déjà plus de gauche.
Les
socialos, ils trahissent.
Faites un sondage tout de suite sur les GG.
On va regarder.
Vous allez voir. La France va parler dans 2 minutes, là. Dans 1 minute, 30 secondes.
La France Insoumise, s'il vous plaît. La France Insoumise est-elle à l'extrême gauche?
C'est tout.
Oui, 90%.
Mon
cher Loïc, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Nous sommes dans le camp de la minorité.
Merci.
Ils sont au deuxième tour.
Allez,
on en parlera.
Suite des GG dans un instant.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.